Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani
wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Dimouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
La mode, une industrie résiliente au Mali, c'est le thème du Grand Dialogue d'aujourd'hui. Le Forum de la mode et du design de Bamako ouvre ses portes aujourd'hui, 28 novembre. Il se poursuivra jusqu'au 30 novembre. Le thème de cette première édition est « Essor de la mode africaine, innover, structurer et réinventer une industrie ». Au programme, nous pouvons retenir des ateliers de réflexion, des masterclass, mais aussi des panels. L'événement réunit des acteurs de la mode, de l'économie, mais aussi de l'environnement. Quel est l'objectif de ce forum? La mode est-elle un secteur porteur aujourd'hui? Des questions autour desquelles nos invités d'aujourd'hui vont s'atteler d'y répondre. Ils sont Mamadou Racine Kouyaté, il est mannequin. Bonsoir. Notre deuxième invité est Jean-Kassim Dambélé, il est créateur de mode. Bienvenue. Et en troisième lieu, nous avons Madame Ouattara Safiatou, elle est créatrice de mode, elle nous vient de la Côte d'Ivoire. Bonsoir. Je suis Mariam Koulibaly, bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Comme je le disais dans l'entame de cette émission, le thème du Grand Dialogue d'aujourd'hui est la mode, une industrie résiliente au Mali. Et la première question, nous allons l'adresser à Monsieur Jean-Kassim Dambélé qui est du domaine. Et aujourd'hui, nous sommes au Forum de la mode et du design de Bamako. Selon vous, est-ce que ce genre d'initiative est important pour les créateurs de mode maliens?
Ok. Déjà, je vais me représenter un peu.
Allez-y.
Je suis Jean-Kassim Dambélé, artiste créateur de mode. Mm-hmm. Je suis le directeur artistique et puis le PDG de ma marque Jika Dressing, mm-hmm. une marque malienne.
Que vous portez d'ailleurs.
Que je porte d'ailleurs, bien okay. sûr, toujours. Mm-hmm. Et c'est une marque qui travaille sur les vêtements unisex, les vêtements hommes, femmes, enfants, les accessoires, bijoux et tout. Je travaille avec tout le Mali, entre guillemets, mm-hmm. avec les artisans, à travers les bijoutiers du Nord et tout. Et aussi, je suis aussi le fondateur de Mali Fashion Empire, un événement de mode qui est à sa deuxième édition cette année, qui est bientôt du 12 au 15 décembre de cette année.
Et aussi, j'espère que Studio Tamani sera aussi invité.
Avec plaisir, tout avec plaisir. Okay. Donc, c'est ouvert pour tout le monde. Donc, déjà, pour répondre à ta question, et le forum des designs, initié cette année sur cette date le 28. Franchement, c'est la bienvenue en fait. On avait besoin de ça en fait. Besoin pourquoi? Parce que il faut que nous arrivions à comprendre que le Malien, que la nation, que la population arrive vraiment à voir que la mode, c'est pas que le défilé. Les secteurs de la mode, les éléments de la mode, les acteurs de la mode, c'est pas que les mannequins, c'est pas que les designers. La mode, c'est pour tout le monde, au fait. Parce que même un fou, tu as besoin de vêtements. Et la mode, c'est l'actualité. La définition de la mode en tant que telle, c'est l'actualité, c'est l'actuel. C'est-à-dire, la mode est toujours le futur, au fait. Nous sommes les futurs, nous sommes les décideurs des couleurs de l'année, les couleurs de toute une vie, au fait. Et la mode est aussi une identité. C'est une identité, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, mais donc, je rentre directement.
Oui,
aujourd'hui, quand tu prends la mode, quand tu prends le nom Borolan, je donne un exemple simplement. Mm. Quand tu prends le nom Borolan, Borolan est devenu une marque aujourd'hui. Mais c'est très dommage que nous, les Maliens, on n'arrive pas à profiter de ça. La nation malienne ne profite pas de ça parce qu'il y a des entreprises, je ne vais pas citer des noms ici, c'est pour faire la pub. Mm. C'est des entreprises, c'est des designers qui travaillent aujourd'hui autour du Borolan. Mm. Mais ce n'est même pas les normes du Borolan. Le nom, on est d'accord que le Borolan, ça veut dire malien, ça veut dire mettre l'argile sur un support, dites coton ou le mur et tout. C'est-à-dire le Borolan, c'est vraiment une technique faite au Mali et c'est créé par nos ancêtres. Donc la mode, c'est déjà un héritage. Donc le Borolan, nous sommes vraiment les héritières du Borolan. Et c'est dommage que la population, le Malien, l'État malien, l'économie malienne ne profite pas de ça.
Donc, on va aborder la question économique après. En attendant, nous allons donner la parole à Madame Ouattara Safiatou, qui est créatrice de mode, qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Et votre co-débatteur vient de le dire, la mode, ce n'est pas que les strass et les paillettes. Et qu'est-ce que vous pensez de cet événement et des propos qu'il vient de tenir?
Donc, je suis Ouattara Safiatou et donc ivoirienne. Mm-hmm. Je veux d'abord souligner que je suis là quand même, ça fait quoi, environ 2 ans. Mm-hmm. Et le Mali est un pays qui m'a adoptée, qui m'a ouvert ses portes. Voilà, et les Maliens sont très chaleureux. Voilà. Et du coup, j'ai décidé de m'y installer. Ah, voilà.
Une Malienne de plus.
Voilà, on va dire ça. Okay, bienvenue. Et merci à vous. Et donc, dans cette aventure-là, je suis avec mon mari. Mm-hmm. Voilà, lui qui est ici depuis très, 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 très longtemps. Avec qui je fais cette marque-là.
Et le nom, au passage.
Voilà, le nom de la marque, du coup, c'est Foroko. Voilà, et voilà, nous faisons ça. Il y a bien d'autres accessoires. Mm-hmm. Voilà. Et donc, pour revenir à votre question, moi, je pense que je n'étais pas ici dans la mode depuis toujours, comparé à Jean Cassim. Mm-hmm. Voilà, je suis arrivée il n'y a pas longtemps. Mais je pense que cette initiative-là qu'a portée tous ceux qui ont organisé le FMD, franchement, je pense que l'initiative est très bonne. Pourquoi ? Parce que j'ai eu à participer à la réunion, voilà, d'information autour de ce forum-là. Et franchement, ce que j'ai pu entendre là-bas était intéressant.
Qu'est-ce que vous avez pu entendre ?
Voilà, ça a été fait d'abord dans l'objectif de regrouper un peu tout le monde, au fait. Voilà, autour d'un même événement. Tous ceux qui sont dans la mode ici, les regrouper autour d'un même événement. Et en deux, aussi, essayer d'apporter quand même un soutien, on va dire, aux jeunes créateurs, afin de mieux les guider, voilà, dans leur évolution et dans leur création. Voilà, ça dit, il ne faut pas seulement que créer, mais il faut pouvoir aussi vendre. Il faut pouvoir aussi trouver des réseaux de vente. Et donc, le FMD est là pour tout ça, au fait, on va dire, voilà, afin d'informer les nouveaux créateurs et tout. Donc, je pense vraiment personnellement que c'est une très belle initiative, voilà.
Okay. Une très belle initiative au cours de laquelle il n'y aura pas de défilé comme s'y attendent beaucoup de monde. Mais sur le plateau, nous avons Mamadou Racine Kouyaté, qui est mannequin international et qui nous a fait l'honneur de participer à cette émission, à ce débat. Alors, Monsieur Kouyaté, selon vous, est-ce que ce genre d'initiative va booster un peu le secteur de la mode au Mali et du mannequinat, en quelque sorte?
Rebonjour. Moi, je me représente encore. Moi, c'est Mamadou Racine. Mm-hmm. J'étais le meilleur mannequin africain 2018-2020.
Félicitations.
Je suis le promoteur de marque RK, le DG de RK Free Service. Donc, le promoteur des festivals.
D'accord.
Ouais, que ce sera la première édition cette année, je veux dire. Voilà.
J'espère que ça va bien se passer.
Inch'Allah.
Et
Inch'Allah.
La question
avec
disait...
Avec l'aide de tout le monde,
Inch'Allah,
je sais que ça va être un bon événement.
Inch'Allah.
Voilà, donc je compte sur tout le monde.
Okay.
Voilà.
Je disais, voilà. Et je posais la question à savoir votre idée, qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'événement? C'est vrai qu'il n'y aura pas de défilé, mais et l'apport aussi des mannequins dans cet événement est vraiment considérable à entendre les organisateurs. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui?
Ce que j'ai pensé de cet événement, vraiment... C'est un grand événement et j'ai beaucoup apprécié parce que c'est pas facile d'amener tout le monde dans un bateau, tout l'acteur de la mode. Voilà, c'est pas tout facile de les remettre ensemble. Tu vois, surtout au Mali ici, des fois c'était vraiment difficile. Donc c'est vraiment. Et je remercie ici Hakim et notre meilleur styliste qui s'appelle Jean Cassim aussi. Vraiment, parce que c'est grâce à eux. Donc cet événement, ça va prendre beaucoup d'allure, je veux dire. Parce que ça fait longtemps que tout le monde veut que l'acteur de la mode soit associé. Pour que tout le monde veut que l'acteur de la mode soit associé ensemble pour créer quelque chose de concret au Mali ici. Donc c'est la première fois, j'ai beaucoup aimé l'idée. Et je sais que ça va apporter beaucoup de choses dans la mode africaine pour le développement de la mode.
On l'espère. Alors, Monsieur Jean Cassim Dambélé, Mamadou Kouyaté vient de le mentionner. Il faut, cette rencontre réunit tous les acteurs, que ce soit dans le secteur économique, environnemental, mais aussi de la mode. En quoi c'est important que tous ces acteurs se réunissent aujourd'hui autour de cet événement?
Déjà, pour s'identifier déjà, pour être identifiés. Parce que c'est dommage que nous n'arrivions pas à comprendre que, au fait, je donne un exemple directement sur un atelier de couture. Mm-hmm. J'ai beaucoup voyagé, Dieu merci. Je suis allé dans un atelier de une maison de couture. Je vois qu'il y a le créateur de mode. Ça peut être plusieurs créateurs pour une marque. Plusieurs personnes qui dessinent pour une marque. Je vois les créateurs de mode. Je vois le secteur des modélistes. Je vois le secteur des tailleurs. Je vois le secteur le bureau des couturiers. Je vois aussi le bureau des stylistes. Donc déjà, ce forum est vraiment bien pour que tout le monde puisse être identifié déjà.
Est-ce qu'il y a cette organisation de ce domaine que vous avez eu à expérimenter ailleurs, ici au Mali, que chacun ait son atelier, chacun puisse avoir son espace de travail?
Non. Non, pourquoi? Parce que quand tu demandes à un couturier aujourd'hui dans la rue, tu lui demandes vous êtes quoi, il va se dire peut-être soit styliste ou couturier. Mais certainement, peut-être il est un modéliste. Ou soit c'est peut-être seulement un tailleur. Nous, les tailleurs, les designers maliens qui sont aujourd'hui, on est vraiment à féliciter, on est à applaudir parce que nous sommes en train de faire tout en même temps. Mais si ce forum est déjà que tout le monde soit regroupé, ça va aider aux gens de s'identifier déjà. Ça va aider aux gens de comprendre leur travail, de comprendre ce milieu au fait. Parce que, mine de rien, nous sommes tous rentrés dans ce domaine comme ça, par une envie d'exister. Parce que exister dans quoi? Exister à travers nos arts, exister à travers nos façons d'être, exister à travers nos différences. Donc c'est tout ça qui regroupe la mode en tant que telle. Et la mode, comme dans le thème, il n'y a pas que le design, en fait, c'est pas que le projecteur en fait. Aujourd'hui la mode est là, vous travaillez pour nous. Vous travaillez dans la mode aujourd'hui. À 16h quand même, c'est 45 minutes, mm-hmm. Vous êtes là pour nous.
Oui.
Donc et pourtant il y en a plein d'autres. Il y a des infographes, bon tout ça c'est le design, il y a les infographes, il y a le Spritz aujourd'hui qui est vraiment une grande agence de communication. Et aussi, ça dit, tout le monde est dans la mode. Donc, du coup, l'acte de regrouper tout le monde, ça dit, on peut pas dire que c'est de la mode. C'est au-delà de tout ça. Mm-hmm. Par exemple, moi, mes créations, je prends un exemple sur une création que je fais. Je prends un exemple sur ma collection d'Ozo. J'ai fait une collection autour des chasseurs. Cette collection, il y a eu les artisans de Ségou qui ont travaillé dessus. Avec le tissage, avec la teinture, avec le borlan. Il y a eu des artisans de Bamako qui ont travaillé dessus. Il y a eu des artisans de Kai, de Kolokani. Donc, tout ce travail, tu vois, tous ces gens-là, si ils étaient, tout le monde était là aujourd'hui, parce que ça dit, acheter un vêtement Jika Dressing, c'est tout ce Mali, en fait. C'est tout ce peuple qui travaille dessus, qui sont représentés par un vêtement. Et ce vêtement, imaginez, on a décidé les couleurs, on a décidé même la texture de tissu. Donc tout ça a été identifié aujourd'hui. C'est-à-dire si on doit faire sortir toutes ces personnes qui travaillent dans la mode aujourd'hui dans la salle là, à Tekouya.
Donc c'est une industrie.
C'est une énorme en fait. Et n'en parle même pas des accessoires. Parce que ça c'est une autre vie. Moi j'ai travaillé avec les accessoiristes et c'est dommage. Heureusement eux ils sont là aujourd'hui. Je suis content parce que je connais son mari. Dieu merci. On a travaillé ensemble. On a même défilé ensemble. Mais moi j'étais encore jeune. Mais voilà, on a défilé ensemble. Mais de voir aujourd'hui que lui, il s'intéresse aujourd'hui à l'accessoire. Parce que l'accessoire, c'est l'accessoire pour une femme. Les hommes ne connaissent pas, mais l'accessoire, c'est une femme. Pour une femme, c'est leur valise, en fait. C'est leur vécu, c'est leur intimité dedans. On a même adagé à dire oh, il ne faut pas toucher au sac d'une femme. Il ne faut pas mettre ta main. Donc, l'accessoire pour une femme, c'est ça qui donne la touche finale. L'accessoire, les bijoux, quand on dit l'accessoire, il y a les sacs, il y a les bijoux, il y a les chaussures. Tout ça, ça fait partie de l'accessoire. Mais avoir aujourd'hui des gens qui sont expérimentés, qui sont partis se former, qui ont parti chercher des connaissances autour de ce sac, qui est là, qui est banal peut-être pour quelqu'un, mais qui regroupe toute une histoire. Donc du coup, tout ça, c'est... Parce que ça, c'est tissu là même. Bon, je prends un exemple sur ça. Ça, c'est le Koblani-Blani tissu du dos. C'est le truc qu'on porte là. C'est ça. Et cette coble, c'est le truc, ce petit faux boubou là, ça représente beaucoup pour la nation malienne. Il y a tellement de gens, quand tu parles, voilà, ils disent, ah, il faut porter ça, ça apporte du bonheur. C'est le pain de loup. C'est le pain de loup. Tu vois, on connaît l'histoire de la mode, en fait. L'histoire de la mode malienne, je peux dire, je m'y connais. parce que j'ai pas que ce bagage de la mode en fait. Je viens de la danse. Je travaille avec les Cardi Laico, avec Caitlyn Noël, avec tous ces vieilles personnes qui sont dans la culture aujourd'hui. Donc du coup, j'ai eu aussi la chance de travailler avec la Biennale artistique et avec la Marie-Jean Sigasso. Donc pour tout ça, pour je vais dire vraiment, je vais grouper, je vais finir.
Oui.
Je parle beaucoup.
Oui, je sais.
Je parle beaucoup. Oui. Je finis. C'est-à-dire que ce forum vraiment arrive vraiment à identifier déjà tout ce monde, à regrouper tout ce beau monde, ça va vraiment faire que l'État puisse vraiment avoir confiance en nous. J'ai l'habitude de dire quand on dit que oui, on part dans un endroit, on ne donne pas de financement, on ne connaît pas.
Il ne faut pas empiéter sur mes prochaines questions, monsieur.
Oui, okay. Je suis comme ça, je t'ai dit,
donc
je parle beaucoup.
Nous allons donner la parole à Madame Ouattara Safiatou. Et votre co-débatteur a évoqué plusieurs difficultés, notamment les défis de la formation, l'accès au financement et tout le travail qui est derrière, et même l'histoire même de la mode qui est peu comprise des consommateurs. Mais avant d'en arriver là, Madame Ouattara, et il a parlé du travail des accessoiristes qui est peu connu du monde entier, même des consommateurs lambda. Quel est le travail de l'accessoiriste? Comment est-ce que vous intervenez dans le domaine de la mode? Comment vous l'impactez?
Bon, nous, Foroco, ce qu'on fait, c'est vraiment que des sacs pour le moment. Oui. Donc, je vais aller sur l'accessoire sac.
Qui n'est pas à minimiser pour la femme aussi?
Non, du tout.
Ok.
Oui, pardon, voilà. Donc, vous voyez, je disais que nous, Foroco, voilà, c'est que des sacs. Du coup, je vais aller vraiment sur l'accessoire sac. Et donc, c'est comme Kajanka l'a dit. Franchement, le sac, c'est... Pour moi, en tout cas, le sac, c'est quasiment tout pour une femme, au fait. Moi, je ne sors jamais sans un sac. Jamais. Et pour rire un peu, quand j'étais au bac plus 1, il y a un ami avec qui je marchais toujours. Un jour, il m'a dit, mais tu sors tout le temps, même pour aller au cours, là, la main, tu as un sac. Mais qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, mon frère, moi, je ne sors jamais sans sac, au fait. Pour moi, le sac, c'est un signe de féminité pour la femme, au fait. Mmh. Voilà. Et donc, ici, au Mali, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, vraiment, qui font des sacs. Beaucoup. Parce que quand on part à l'artisanat, moi je dors là-bas, mon mari dort là-bas, et voilà, c'est vraiment notre grain à nous. Donc quand on part à l'artisanat, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais ce que nous, on a voulu rajouter, c'était peut-être un peu plus de finition. Voilà, un peu plus de finition et puis essayer aussi de travailler vraiment avec d'autres tissus, voilà, que ici au Mali, les gens utilisent juste peut-être pour faire un boubou ou bien pour faire autre chose, au fait. Voilà pourquoi nous sommes allés sur celui-là, le bourni fini. Kajanka a donné un autre nom qui est un peu, voilà, corsé pour moi, mais bon. Mais la définition qu'il a donnée, c'est vraiment ça. C'est un tissu qui est protecteur, voilà. C'est un tissu qui est signe de séduction aussi pour la femme. Voilà. Donc, l'accessoire, c'est ça. Pour en revenir à votre question.
Comment vous impactez les secteurs de la mode?
Voilà. Ben, c'est vraiment du travail pour tout le monde, au fait. C'est vraiment du travail pour tout le monde. Il y a déjà celui qui fait ça, ce tissu. Il y a aussi ceux chez qui on va aller prendre des boucles, des chaînes. Il y a aussi ceux chez qui on va se ravitailler en cuir. Donc, c'est tous ceux-là qui participent, en fin de compte, à la création du sac, au fait. Nous, on vient juste assembler le tout pour pouvoir créer le sac. Mais tout ce que nous achetons, c'est chez des gens, chez des fournisseurs. Voilà. Et donc, c'est beaucoup de gens qui travaillent. Et pour finir, il y a aussi un couturier qui va coudre les sacs. Il y a aussi ceux qui vont couper. Donc, du coup, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de familles qui, de petites mains derrière, qui vont vraiment s'unir autour de la création d'un sac.
Ce qui va impacter aussi le prix.
Ce qui va impacter le prix, mais qui va aussi jouer dans la balance économique. Mm-hmm. Voilà.
On en reviendra. Okay. Nous allons donner la parole à M. Mamadou Racine Kouyaté, qui est mannequin. Et vous, les mannequins, comment est-ce que vous impactez à votre tour le secteur de la mode? Parce que le créateur a beau créer, il a beau inventer, il a beau réfléchir, mais il faut quelqu'un aussi pour qui soit la vitrine de cette création. Moi, je dirais que vous êtes un peu la vitrine des créateurs, mais c'est bien de l'entendre de votre bouche, de votre propre voix. Comment est-ce que vous impactez ces secteurs-là?
En fait, tout d'abord, sans le mannequin, je veux dire, il n'y a pas la mode. Mm-hmm. Voilà. Le mannequin représente tout dans la mode actuellement. Mm-hmm. Parce que le styliste peut faire un beau tenis, mm-hmm. c'est le mannequin qui porte pour la valoriser de cette tenue. Donc, pour que tout le monde puisse connaître la valeur, la créativité, ce que le styliste a fait et tout, voilà. Mm-hmm. Voilà. Donc, un mannequin, c'est comme la clé de la mode africaine actuellement.
Et quels sont les critères de sélection? Comment est-ce qu'un créateur décide, par exemple, de sélectionner Mamadou Racine pour porter sa tenue? Quel est le choix que le créateur met en avant? On va aussi poser cette question à Jikadress, mais en avance, réponse.
Ça dépend du charisme du mannequin. Et la taille, la démarche, de façon dont il représente le tenue d'un styliste, tu vois, parce que c'est pas tout le monde qui valorise le tenue de styliste, parce que le styliste met du temps à travailler son accessoire, de tenue, tout. Donc il faut avoir quelqu'un vraiment qui est dans le milieu, qui maîtrise, je veux dire, tu vois, donc pour porter ses beaux tenues. Donc, pour mettre en valeur.
Donc, ça veut dire que je ne risque pas d'être un mannequin pour Giga Dressing.
Tout le monde peut devenir mannequin. Tout le monde est mannequin.
On constate aujourd'hui aussi que les critères du mannequinat changent parce qu'on a des mannequins grande taille, des petites tailles. Et toutes les tailles maintenant sont prises en compte. Les problèmes de couleur, de teint ne sont plus considérés. Même les personnes en situation de handicap aussi sont inclus dans le système aujourd'hui.
C'est par rapport à ça que j'ai en train de dire. Tout le monde peut être mannequin. Pourquoi j'ai dit que tout le monde peut être mannequin? Parce que même toi, tu es là actuellement, tu es mannequin à ton genre, en fait. Mm-hmm. Tu vois, il faut aimer le milieu, aimer les choix, ce que tu portes, donc voilà, et les valoriser, c'est tout.
Il a raison, M. Giga Dressing, de dire que tout le monde peut être mannequin. Mais quel est votre critère de sélection quand vous voulez faire porter votre création à par un mannequin?
Justement, le forum est là pour ça déjà. Mm-hmm. Je vous explique. Mm-hmm. Au fait, il faut que les gens de la mode comprennent que, en fait, le mannequin, c'est la finition d'un créateur. Mais l'idéologie du mannequin mince, grande taille, ça, c'est un choix que le designer a le seul à décider. Aujourd'hui, moi, je peux peut-être décider, je fais une collection, je peux aller sur une collection bizarre, comme je peux juste donner une collection T. Mais quand je parle du T, il y a déjà le grain qu'on parle. Il y a aussi les Marocains, parce que ça vient de là-bas, en fait. C'est les Asiatiques, en fait. Donc, le thé, si je décide ça, peut-être, je peux peut-être aller sur les mannequins asiatiques. En fait, le choix des mannequins, ça, c'est vraiment c'est le designer qui doit réfléchir à ça. Moi, personnellement, quand je fais une collection, même la musique sur laquelle je vais défiler, je commence d'abord avec ça d'abord. Le choix du mannequin vient juste après la musique. Et après, parce que souvent, quand tu choisis aussi ton mannequin, ça t'aide aussi à connaître la coupe. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez que le choix des mannequins change, pourquoi? Parce qu'il y a les consommateurs. Par exemple, quand tu parles à Giga Dressing, toutes les tenues que je fais à ma taille. Parce que c'est ça que j'avais commencé. Je me dis, bon, si on n'achète pas, je vais porter. Tout simplement.
C'était l'idée de base.
Oui, voilà. Si on n'achète pas, au début, je ne me prenais pas au sérieux. Je me dis, bon, si on n'achète pas, je vais porter. Parce qu'il faut savoir, nos envies n'est pas forcément l'envie des autres. Mm-hmm. Moi, je donne un exemple. Moi, quand j'étais au conservatoire, j'avais commencé à porter j'étais pas encore designer. J'avais commencé à porter des shorts trouillés, jeans blessés. Donc, je portais ça. Tout le monde, les gens n'aimaient pas. On m'a critiqué 1000 fois. Mais 2 ans, 3 ans, 4 ans, poum, tout le monde le fait. Et ça a toujours été comme ça.
Vous avez lancé une tendance en quelque
moi,
sorte.
Moi, ça a toujours été comme ça. Même quand j'ai commencé à travailler sur le Zoro Blé, couleur Zoro, donc chasseur, les designers ne le faisaient pas au Mali. Mais quand j'ai commencé, boum, boum, tout le monde fait Zoro Blé aujourd'hui. Mm. Ah, mais alors qu'il y a il y a initiation mal là, en fait. Tout n'est pas comme ça, en fait. Mm. Il faut vraiment il faut passer par des chemins pour pouvoir comprendre certaines choses.
Il y a l'école des maîtres.
Oui, non. Il faut être curieux. Il ne faut pas prendre les choses comme ça. Il faut demander. La personne qui a fait avant toi, tu dis, ah, pourquoi tu avais utilisé ça? Et en ce moment, tu peux vraiment, il peut te guider. Si c'est tout, un truc que tout le monde passe. Moi, je viens de la danse. Il y a des danses populaires, il y a des danses rituelles, il y a des danses qui traditionnelles. En fait, il y a tout genre de danses. Il y a des danses que Horonta danse, les nobles ne dansent pas. Il y a des danses que les griots ne dansent pas. Il y a des danses que les enfants ne dansent pas. Donc, il y a c'est aussi ça dans les tissus maliens, mais les gens ne savent pas. Et moi, même l'action de mélanger le borlan avec indigo, le borlan c'est vraiment le tissu malien, indigo c'est le entre le Guinée et le Mali. Mais aujourd'hui, Nigeria le font. Les Nigériens le font beaucoup maintenant. Mais ça c'est le Guinée, la Guinée qu'on a créé, eux, le Mali. L'indigo, c'est nous. Mais moi, j'ai fait une collection égyptienne chic, c'était autour de ces deux tissus. Et c'était la première fois qu'un designer l'utilise. Mais aujourd'hui, tout le monde le fait. Donc, j'ai toujours, c'est ça, en fait, l'envie de dire quelque chose. Et je voudrais aussi revenir sur le choix. Il y a un truc qu'elle avait dit sur ça, l'écologie. Okay. L'écologie du sac. Mm-hmm. C'est-à-dire, l'effet, l'action d'utiliser le cuir dans le sac, les gens ne savent pas. C'est du recyclage. C'est pour ne pas... Parce qu'aujourd'hui, imaginez, quand tu pars au marché, il faut imaginer, Michidiakem Faramalabi, quoi. Les vaches qu'ils ont égorgées aujourd'hui au Mali, pour qu'on puisse manger ça. On ne peut même pas calculer. Mais eux, leur travail, c'est vraiment prendre la peau de ça pour que nous, on puisse vraiment... En fait, pour qu'on puisse les identifier dans notre garde, pour qu'ils puissent vivre à travers nous, en fait.
C'est un des thèmes dont les panélistes vont débattre aussi au cours de ce forum. La question environnementale, comment est-ce que le secteur de la mode peut aussi s'intégrer et intégrer aussi le monde de l'environnement et impacter un peu le changement, la lutte contre le changement climatique. Donc, vous pensez que c'est important aussi d'intégrer ces deux secteurs-là, celui de la mode et de la lutte contre le changement climatique?
Au fait, la mode artisanale, la mode africaine, la mode malienne, nous avons toujours été écolo. L'Afrique a toujours été écolo. Mais exemple, je te donne justement un seul exemple. Avant, dans la rue, dans la famille, tu vois, il y avait un grand jarre, c'est-à-dire fien. C'est jarre, non, en français.
Oui, oui.
Il y avait ça dans toutes les rues, dans toutes les portes. Mais c'est de l'eau minérale. C'est de l'eau filtrée. Canard, c'est l'eau filtrée. Mais maintenant, on nous donne ça autrement, avec des bouteilles, avec des filtres. Donc, nous, on est... Ah, je vois que
de l'eau minérale.
Alors, que c'est, vous êtes... On est con, en fait. Bon, excuse-moi du terme, mais on est con. Et si tu donnes ça à quelqu'un d'autre, quand tu dis, OK, va prendre... T'as fini, t'as dit, ah non, je prends... Mais il faut demander encore plus. Donc, l'Afrique a toujours été écologique. Parce que tout ce que nous produisons, nous consommons nous-mêmes. Donc, on a été écolo. L'Afrique a toujours... Le Mali même... je vais prendre l'exemple sur le Mali. Parce qu'aujourd'hui, le Mali est au cœur de la mode de tout le monde. Même à travers le borlan, je peux le dire, à travers le pain tissé, l'utilisation du tissu cotonnade, c'est le Mali. Les gens ne savent pas.
Je vais donner la parole à Mme Ouattara.
Vous savez qu'il y avait le... On faisait la soie au Mali.
Oui.
Oui.
Comment?
Oui, des années, il y a longtemps. Mm-hmm. Ça, c'est un autre sujet.
Oui.
Mais on a perdu tout ça. Mais aujourd'hui, il y a les Asiatiques, eux, ils vivent que dans la soie. Mm-hmm. Mais on avait ça au Mali. Donc, au fait, on a... En fait...
Ok. Nous allons donner la parole à Madame Ouattara après ce masterclass de Monsieur Giga Dressing. Alors, il a évoqué un point qui est aussi central dans ce forum, et c'est parler de l'écologie, la protection de l'environnement. Vous intervenez et à votre façon dans ce secteur-là aussi, en utilisant peut-être le cuir et autres matériaux de récupération et dans vos créations. Est-ce que vous pensez que c'est important aujourd'hui de penser à l'environnement, vous étant créateur de mode?
Oui, bien évidemment, je le pense. Mm-hmm. Oui, effectivement. Parce que l'écologie, c'est l'affaire de tous, au fait. Mm-hmm. C'est l'affaire de tous à la base. Et comme Kajanka l'a dit, effectivement, ici au Mali, quand moi je regarde un peu comment les choses se passent, effectivement, le Malien, dans sa nature profonde, il est écologique, au fait. Mm-hmm. Voilà. Mais c'est juste que de nos jours, on a l'impression que ce qui vient de l'Afrique est mauvais. Est malsain. On nous envoie d'autres cultures qu'on absorbe et puis on pense que c'est ce qui est bien. Voilà, sinon l'écologie, c'est l'affaire de tous. Et il vaudrait mieux être écologiste parce que cette nature-là se perd. Voilà, et ça va de mal en pire. On voit avec tout ce qui s'est passé cette année, côté inondation et autres, tout ça, c'est les changements climatiques. Voilà. Mais si chacun joue sa petite part de son côté, pour pouvoir au moins éviter ce genre de choses-là, c'est clair que dans les années à venir, ça sera encore moins que ce qu'on a vu cette année en matière d'inondation et tout. Et bon, moi, en tout cas, nous, de notre côté, notre part, c'est un peu ça. On utilise le cuir. Voilà, donc on recycle les peaux d'animaux. Au lieu d'être jetés dans les rues ou bien, comment je vais dire ça, ne pas être utilisés, on va dire, nous, on les réutilise au fait. Voilà, et à cela, on associe encore des tissus qui sont faits localement ici. Voilà, avec ce côté nature-là, le coton, il vient du Mali. Voilà, et donc voilà, on participe à notre niveau un peu à ça.
Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les créateurs de mode sont en train de revenir à ces anciennes méthodes-là, à se dire qu'aujourd'hui, il faut essayer de consommer local et ne pas succomber dans la surconsommation et essayer aussi de toucher un peu à ce qui se faisait avant? Les créateurs sont en train d'en prendre conscience aujourd'hui, selon vous?
Oui, je pense vraiment. Mmh. Je le pense profondément. Comme je vous l'ai dit, avec tout ce que je vois autour, oui, je le pense. Oui, il y a beaucoup de créateurs qui sont en train de revenir vraiment vers nos vraies sources, au fait. Mais il le faut, au fait, vraiment. Il le faut. Il le faut petit à petit, peut-être, mais il le faut.
Monsieur Kouyaté, est-ce que vous avez remarqué cela dans les tenues que vous portez, les créateurs qui tentent de revenir aux sources avec des tissus comme le bogolan, de l'indigo et du raffia? Est-ce que du raffia, on en fait au Mali ici? Voilà. Avec des tissus traditionnels assez connus, voilà, j'ai cité le bogolan et l'indigo. Dans vos défilés, est-ce que vous constatez que de plus en plus, les créateurs s'intéressent à ces tissus-là?
Oui, actuellement. Mm-hmm. Avant, tel n'était pas le cas, mais actuellement. Mm-hmm. Je peux dire, mais actuellement, toutes les stylistes prend les bokolas pour faire leur tous les stylistes actuellement utilisent les bokolas. Mm-hmm. Tu vois, toutes les stylistes utilisent les bokolas actuellement. Mm-hmm. Mais avant, tel n'était pas le cas parce que, tu sais, il faut qu'on favorise notre matière même. Mm-hmm. Avant, c'est-à-dire que tout le monde veut aller prendre des trucs ailleurs, tu vois, qui n'est pas chez nous. Mm-hmm. Tu vois, il faut te mettre des valeurs et le matériel de chez toi-même. Donc, c'est très important. Mais actuellement, tous les stylistes utilisent les bogolans.
Mm-hmm. J'ai beaucoup aimé ça. Les tissus de prédilection des stylistes, par exemple?
Bon,
de
avant.
La soie ou bien des jeans?
Non, c'était la choix, je vais dire même, en fait, tu vois. La choix, c'était pas du tout du bogolan quand même.
Pas adapté au climat ou bien?
Non, pas du tout.
D'accord.
Maintenant, actuellement, il y avait beaucoup de changements par rapport à ça. Mm-hmm. J'ai vraiment fier de ça. Mm-hmm. Parce qu'aujourd'hui, on peut s'habiller en mode in Mali et partir partout au monde. Et être fier de ça.
Avant d'aborder la question économique, Monsieur Jikadresse, j'ai aussi constaté que les coupes aussi sont de plus en plus, s'inspirent un peu de l'Occident, même si le tissu est malien, mais la coupe, le design un peu, et s'inspire de l'Occident ou bien d'ailleurs, si je peux m'exprimer ainsi. Qu'est-ce qui a apporté ça? Est-ce que les tissus traditionnels confectionnés et cousus traditionnellement n'attirent pas, ou bien qu'est-ce qui a amené ce changement des chemises, des pantalons, des combinaisons en bogolan qu'on voit aujourd'hui?
Peut-être ce que moi je vais répondre par là, peut-être on va m'insulter après, mais je vais le dire.
Pas.
Non, en fait, c'est la vérité. Sauf que c'est la vérité et puis c'est des remarques que j'ai eu à faire. En fait, en réalité, on me pose la question souvent, pourquoi les Maliens ne consomment pas les créateurs maliens? C'est tout simplement que, en réalité, nous, les Maliens, avec tout ce que nous avons, on n'a pas de style.
C'est-à-dire?
Le Malien n'a pas un style vestimentaire. Mm-hmm. On voit des tenues des créateurs d'un Sénégalais, peut-être, ivoiriens. Et ça dit, on veut adapter, on veut être comme eux, en fait. Mm-hmm. C'est ce qu'on voit dans leurs films, dans leurs publicités. On veut avoir les tenues que les créateurs le font. Alors que, nous, les créateurs maliens, on est vendus dans les boutiques pas possibles
ailleurs.
Ailleurs. Et quand nos coupes sont... En fait, je donne un exemple seulement sur une seule créatrice malienne. Quand tu vois la coupe de Maria Bokoum, je nomme son nom parce qu'elle elle a été mon mentor, en fait. Elle m'a beaucoup aidé. Même jusqu'à présent, elle me guide tout le temps. Quand tu vois les coupes de Maria Bokoum depuis sa création jusqu'à maintenant, là, elle a changé mille tailleurs, mais c'est la même coupe. Et ces coupes sont reconnues par tout le monde et les gens aiment la finesse de ça. Ce que eux ils apportent avec le savoir-faire du sac, c'est la finesse en fait, la finesse et la finition. Donc du coup, nous les Maliens, on voit pas ça directement. On voit que il faut que ça vienne de d'ailleurs pour qu'on puisse apprécier. Et aujourd'hui que nous partons sur les pantalons, sur les tuniques, moi j'ai l'habitude de dire aux gens tunique froquia là, c'est pas chez nous, c'est arabe en fait. Les tuniques c'est pas chez nous. Le tunique, c'est pas nous. Le pantalon, c'est pas nous. Oui. Chemise, c'est pas nous. C'est la colonisation qui fait ça. Des robes, c'est pas nous. Nous, on a toujours été les boubous. Mais aujourd'hui, quand tu vois maintenant l'évolution du monde, tout le monde porte du boubou. Jusqu'à ce qu'ils ont, pour que ça soit chic, ils ont dit boubou dress. Mm-hmm. Faux boubou. Mm-hmm. Ils ont donné des thèmes pour que ça soit pas malien. Parce que nous, personnellement, on n'arrive pas à raffiner et à consommer, en fait. Mm-hmm. À assumer, en fait. On n'arrive pas à assumer. Moi, je me souviens, moi, ma première collection classique indépendante, c'était en 2017. J'avais fait un faux boubou. Maintenant, on dit tout faux boubou. Mm-hmm. Moi, au début, c'était parce que j'étais pas doué dans la couture. Donc, je partais sur le chemin facile pour adapter quelque chose. Mm-hmm. Donc, j'ai commencé ces faux boubous-là. Depuis 2017, je me souviens très bien. Et au Maroc, je suis allé dans un marché, tout le monde se tournait pour me dire « Ah, tu as fait ça où ? Vous êtes qui ?» C'était ma première collection. C'était un faux boubou noir que tout le monde a apprécié. Et ce même faux boubou noir, je l'ai traduit sur une chemise. Et ça, la créatrice Adama Paris, qui a son événement Dakar Fashion Week, elle a porté pour une émission. Elle a porté et elle a dit partout, c'est JK Dressing. Elle était fière de ça. Donc aujourd'hui, pour dire que nous, les Maliens, les Maliens, on n'a pas de style en fait. On est des suiveurs, on suit. Même c'est encore pire même. Oui. Parce que quand tu imites quelque chose, tu imites pour que tu donnes à une personne de chez toi pour que cette personne puisse gagner de l'argent. Mais nous, on n'imite pas, je ne veux pas dire le nom, mais c'est pire.
Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission et la question principale qui était de parler économie. Oui. Voilà, et savoir déjà, est-ce que vous vivez de ce métier?
Bon, tu sais, quand on parle aujourd'hui aussi de la mode artisanale, la mode éco-responsable que nous faisons, c'est aussi éthique. Moi, je peux dire que si vivre est de manger... Oui, je vis. Si vivre aussi est aussi de payer tes employés, bon, je peux dire mes collaborateurs, oui, je vis. Mais on peut aller au-delà de tout ça si ce secteur est pris vraiment au sérieux.
Par qui ?
J'arrive. Mm-hmm. Par exemple, par l'État déjà, par les Maliens aussi, par la population. Je donne un exemple aujourd'hui. J'ai fait une formation avec des experts dans la matière. La dame, quand elle a attendu juste ma voix, elle m'a dit, vous, il faut plus créer. Je te connais pas, j'ai pas encore regardé tes collections, mais selon ta voix, il faut même plus créer. Je sais que tu es quelqu'un qui crée beaucoup. Prends seulement une seule pièce, tu fais 1000 de ça. Tout le monde va acheter. La population du monde, on est nombreuses au fait. Une seule tenue, tu fais ça et tu vends des milliards
d'exemplaires.
Oui. Le forum est là pour ça. En fait, quand tu crées une collection, il faut aussi, parce que moi, je sors des collections artistiques. Donc, il faut sortir aussi, mais j'ai commencé ça il n'y a pas très longtemps, il faut commencer aussi une ligne de prêt-à-porter pour que tout le monde puisse vraiment porter. Donc, du coup, on n'arrive pas à vivre, parce que si on doit vivre vraiment de ça, il faut qu'on crée encore plus d'emplois. Il faut qu'il y ait, parce qu'il y a tellement de jeunes qui sont assises dans la rue, qui ont envie de ce travail, qui ont envie d'exister. Parce que je peux dire ça, parce que moi, à travers la mort, je me sens exister. Pourquoi? Parce que, voilà, on me dit, ah oui, on te voit sur les réseaux sociaux. En fait, je me sens exister. Donc, du coup, la mode, ça, c'est plus ça d'abord.
Et de quoi est-ce que vous avez besoin pour pouvoir explorer tout ce secteur-là et créer une ligne, recruter des jeunes, créer de l'emploi autour de ce secteur? De quoi avez-vous besoin actuellement?
Déjà une formation. Oui. Une formation pour aider les uns et l'autre de comprendre d'abord le métier. Et après ça, et des investisseurs. Moi, personnellement, je demande même pas de financement. Bon, je fais mon événement, je demande le financement pour l'événement, mais j'ai jamais demandé quoi que ce soit pour Giga Dressing. Oui. Jamais de la vie. Ça, c'est un choix. Non. Le choix, parce que, comme j'ai dit, j'ai si bien dit, quand j'ai commencé Giga Dressing, je me prenais pas au sérieux. Je voulais faire des trucs pour moi, pour porter. Tout simplement. Mais, avec ça, les gens ont commencé à faire des commandes. Donc, quand vous commandez, et je prends, c'est-à-dire, l'argent que j'ai à main, je fais ça pour, j'investis, en fait, j'achète, je vends, et j'investis en même temps dans une nouvelle collection, dans les tenues des uns et les autres. Et il y a aussi des clients qui croyaient à moi, qui me donnaient de l'argent. Moi, je me souviens, ma collection, Pyjama Story, ma collection 2019, c'est pratiquement un client ou une cliente, je me souviens pas. Bon, oui, c'est une cliente qui m'a donné de l'argent. J'étais là en train de travailler. Il me dit, ah, tu as quoi, Jean? Je ne connais pas, tu es tout le temps. Mais pourquoi tu es? J'ai dit, non, ça va. Il me dit, non, dis-moi. J'ai dit, non, ça va. Et elle a compris net que j'ai besoin de l'argent. Je ne l'ai pas demandé. Et là, elle me fait une enveloppe. Je ne vais pas donner la somme, mais c'était vraiment bien, quoi. Elle m'a envoyé cet argent via quelqu'un. Je dis, mais j'avais peur de prendre. Et je dis, mais pourquoi? Elle dit, Jean, je sens que tu as besoin d'aide. Tiens. Et c'est ça que j'ai pris pour faire ma collection. Et dans cette collection, j'ai fait des axes. Parce que c'est coûteux. C'est-à-dire, c'est que les gens oublient. C'est-à-dire, les vêtements des créateurs, c'est coûteux. Pourquoi? Je vous donne un exemple. C'est-à-dire, quand tu prends le Borland aujourd'hui, il y a le tisserand, il y a le cultivateur déjà, il y a la sème d'été, il y a Comatex aujourd'hui qui fait les fils, il y a le tisserand, il y a la teinturière ou le borlantier, il y a le couturier, il y a le mannequin, il y a l'événement. Parce que nous, en fait, quand on peut faire un événement, tu payes l'événement. En fait, en réalité, les grands événements, tu payes. Tu payes ton billet d'avion, tu payes ton hôtel. Souvent, tu payes les mannequins pour faire les shootings parce qu'il faut qu'eux, ils vivent aussi dans ça. Même jusqu'à présent, nous, on n'arrive pas à vraiment donner quoi que ce soit du vrai. C'est-à-dire, un créateur doit avoir un mannequin. Ou par an, tu as déjà un visage. Le mannequin, c'est le visage. Tu as un visage. Ça peut être, tu peux prendre une personne dans la rue, mais donc il faut que tu arrives à changer sa vie. Parce que sa photo va être partout. Il faut que lui, il gagne de ça. Il y a tout ça. Fait, on a besoin des investisseurs.
Il y a beaucoup à dire. Oui. Mais nous allons donner la parole à Madame Ouattara Safiatou, qui est créatrice de mode. Nous avons parlé de l'industrie de la mode, du coût de la production et même du prix d'achat qui n'est pas à la portée du consommateur lambda. Qu'avez-vous à dire par rapport à ça? Est-ce qu'il faut voir au-delà du prix? Il faut voir maintenant l'histoire et l'effort derrière peut-être le sac qui est là au lieu du prix?
Bon, je vais dire que il faut aller vraiment beaucoup plus loin. Parce que quand on parle de prix, c'est bon, enfin, ça dépend de tout un chacun. Parce qu'il y a des gens ici qui sont capables d'acheter peut-être un sac Louis Vuitton ou bien un sac Gucci à peut-être 200 000 francs ou 300 000 francs. Mais pour un créateur lambda sur le Mali, qui dira qu'ils vendent peut-être un sac à 50 000 francs, on dira « Ah, c'est cher !» On dira « Ah, c'est cher !» Ou bien pour un créateur qui fait des vêtements, qui vend peut-être l'ensemble à peut-être 80 000 francs, on dira « Non, mais c'est trop cher, je ne peux pas !» Et pourquoi? C'est parce que nous-mêmes, en tant qu'Africains, on minimise le travail des créateurs africains. C'est ça d'abord, au fait, le véritable problème. Ça dit dans notre tête, dans notre conception des choses, c'est toujours ce qui vient d'ailleurs qui est bon. Alors que ce n'est pas totalement vrai, quoi. C'est juste qu'on nous a éduqués comme ça. Mais il faut vraiment que les mentalités changent. Le travail d'un créateur, je ne peux même pas vous expliquer. C'est des nuits blanches, c'est des recherches, c'est des pleurs, c'est des rires. C'est souvent j'ai envie de tout lâcher. C'est beaucoup d'investissement, que ça soit énergiquement, que ça soit financier. Et Kajan Kalu, il a dit, lui, il a décidé de ne pas forcément chercher des financements. Mais il y en a qui cherchent, qui n'en trouvent même pas. Il y en a qui cherchent, qui n'en trouvent même pas. Il y en a aussi qui, peut-être, ont eu à faire des économies avec un travail précédemment et qui prennent pour investir. Mais tout ça, c'est vraiment des difficultés. Du coup, moi, je pense vraiment que si vraiment ici, au Mali, on pouvait avoir le soutien, effectivement, de l'État, de certains financements, voilà, je pense que ça aiderait vraiment beaucoup de créateurs. Et aussi que, je ne vais même pas parler que du Mali, parce que je vois un peu ça un peu partout en Afrique. Il faut que vraiment les Africains, y compris les Maliens, consomment africain.
Okay. C'est sur ces mots que nous allons donner la parole à Monsieur Kouyaté. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, comme vos co-débatteurs, qu'il faut changer les habitudes de consommation, que les gens reviennent aux sources, essayent de consommer ce qui est produit ici au Mali? Est-ce que vous êtes du même avis?
Oui, je suis le même avis qu'elle. Mm-hmm. Ce qu'elle vient de dire, c'est vraiment tout à fait vrai. Et ce que Jean Kassim aussi a souligné aussi. En fait, ici, il y a des gens, je veux dire tout simplement que c'est la complexité, en fait. Tu vois. Parce que nous, on n'est pas vraiment en conscience de nous-mêmes, en fait. Tu vois, on limite seulement ce que les autres font, on veut que ça soit ça, et ce qui vient d'ailleurs. Donc, c'est ce que nous, on veut être comme eux. Donc, c'est la complexité seulement. Tu vois. Sois juste toi-même, en fait. Donc, mettre le valeur de notre créateur, c'est très vraiment important. Donc, voilà.
C'est sûr, c'est notre espoir que vous voulez. Oui, une minute, c'est pratiquement la fin de l'émission.
FDM nous a permis d'être là ici aujourd'hui. Et donc, j'aimerais quand même dire merci à tous ceux qui sont autour de cela. Donc, Hakim, Kazonka qui est ici présent.
Toute l'équipe.
Voilà, toute l'équipe de nous avoir permis de partager avec vous ce moment.
Merci à vous aussi d'avoir accepté notre invitation. Et c'est sûr, c'est notre espoir que nous allons refermer cette émission dont le thème portait sur la mode, une industrie résiliente au Mali. Nos invités étaient Mamadou Racine Kouyaté, il est mannequin. Notre second invité était Jean Kassim Dambélé, créateur de mode, JK Dressing. J'espère que je prononce bien. Et notre troisième invité était Madame Ouattara Safiatou, elle est créatrice de mode. Je suis Mariam Koulibaly. J'ai eu le plaisir de présenter cette émission qui a été réalisée par Sekou Gadigo. La partie technique était gérée par Gagné Kanté, Adjaratou Traoré et Monsieur Sanogo. Merci à vous de l'avoir suivi. On s'est dit à demain, Inch'Allah.